Il y a une semaine, lors d'un festival à New York, Stevie Wonder, pendant le concert, a mis un genou à terre, et ensuite un deuxième. Il a accompagné son geste de ses paroles. Deux genoux en prière pour notre planète, notre futur, nos leaders. Alors pourquoi ce geste ? Par solidarité pour des joueurs de foot américains qui eux-mêmes avaient posé un genou à terre avant des matchs aux États-Unis, et aussi dans le contexte des paroles assez crues du président américain vis-à-vis de ses joueurs. Que faire de son indignation ? Que faire de son indignation ? Un chanteur se met à genoux en prière pour dénoncer des injustices. C'est à peu près ce qu'on a ici dans le psaume 5. Un chanteur se met à genoux en prière pour dénoncer des injustices. Bon, n'allez pas me faire dire que David, c'est Stevie Wonder de son époque. Mais on a bien noté le début du chant, l'introduction, la référence aux instruments. C'était un psaume qui devait être chanté. Il y aura la référence à l'auteur David qui va se retrouver prosterné à genoux, verset 8. Et c'est bien une prière qu'il adresse à Dieu pour dénoncer ce qu'il ressent comme étant des injustices. Il veut dire son indignation. Alors on a déjà vu David en difficulté dans les psaumes 3 et 4, et ça peut paraître récurrent dans tous les psaumes, est-ce qu'on va le rencontrer en difficulté ? Mais on réalise que déjà dans sa situation, dans sa position, il a connu effectivement, que ce soit dans l'attente de la royauté, dans les persécutions qu'il a subies, mais aussi dans la position de roi, avec toutes les ruses, les tentatives de coup d'État, il a connu effectivement beaucoup de situations pénibles. Alors on n'est peut-être pas dans la même cadence de difficultés, d'attaques, mais il y a certainement pour chacun d'entre nous des moments où on a envie de dire notre indignation, un sentiment d'injustice. Un mépris nous a fait du mal. Et ce psaume semble répondre. Comment faire avec notre indignation, notre souffrance ? Et comme beaucoup de psaumes, la structure du psaume nous dit quelque chose de son message. Alors, on va voir le texte de son ensemble. Bienvenue chez votre ophtalmologue. Et on va faire une première ligne avec ce côté-ci. Non. L'idée, c'est simplement de voir la structure de ce psaume, quelque chose qui était parlant à cette époque et dans cette culture, c'était les chiasmes. Et plusieurs spécialistes relèvent dans ce psaume un chiasme, des parallèles entre une partie B, B', où on dénonce les injustices, où David dénonce les injustices, et dans les parties A, A', la première et la dernière, on voit comment il place sa confiance en Dieu. Et comment cette confiance en Dieu est manifestée aussi à la fin par d'autres. Au centre, dans la partie C, au centre, eh bien on va voir tout simplement le tournant de ce psaume, ce qui va être la prière, le cœur de la prière de David. Alors pour méditer ce psaume, je vous suggère le plan suivant. À qui en parler dans les versets 1 à 4 ? Qui en prendra la mesure ? Et comment aller de l'avant ? Et pour terminer, quelle est la conclusion ? À qui en parler d'abord ? À qui en parler ? Bien, avec les nombreux services dont on bénéficie aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir des recours. Vous avez un problème avec votre fournisseur Internet, eh bien, vous allez appeler le service client. Pareil avec votre carte vitale, avec un titre de transport qui... Il y en a qui disent non, on ne peut pas les contacter. Normalement, il y a un recours. Normalement, il y a au moins une adresse e-mail ou quelque chose pour les contacter. Et c'est vrai pour beaucoup de choses. Alors, on n'est pas toujours satisfait de l'écoute dont on bénéficie et on n'arrive pas forcément au bout du recours, mais il y a des recours. Mais même dans d'autres domaines de la vie, on réalise qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles justement on n'a pas de recours. Une insulte, quelqu'un qui insulte quelqu'un d'autre, une calomnie, une menace voilée, on ne va pas se retrouver devant un tribunal pour ça. On n'aura pas nécessairement un recours pour ça. Et malgré la position que David a, on voit qu'il est tout en haut de l'échelle d'autorité dans sa nation. On voit néanmoins que lui-même, il pouvait faire face à ce qu'il considérait être comme des injustices, des menaces, des attaques sur sa personne, un mépris. Vers qui se tourner ? Vers qui se tourner ? À qui en parler ? Eh bien, David le dit ici, il se tourne vers son Dieu, son roi, verset 3. Une manière de dire qu'il a bien un recours, qu'il peut bien faire appel à quelqu'un. Une manière de dire aussi qu'il y a au-dessus de lui une autorité, un roi au-dessus de lui. Et comme on le verra, c'est ce qui va donner de l'ancrage à sa prière. La prière, ce n'est pas simplement trouver une oreille attentive. J'ai mentionné Stevie Wonder en début de rencontre. Il a écrit une chanson qui s'intitule « Have a talk with God »,« Parle-en avec Dieu ». Et voici un extrait de la chanson. « Tu devrais en parler avec Dieu. Il te donnera la paix de l'esprit. Quand tu trouves que la vie est trop dure, prends simplement le temps de lui en parler. » Et il affirme un peu plus loin qu'à sa connaissance, Dieu est le seul psychiatre qui consulte gratuitement. Une manière de dire que voilà, ça fait du bien de parler à Dieu. Mais pour David, ce n'est pas simplement une thérapie. Ce n'est pas simplement la satisfaction de trouver quelqu'un qui nous écoute, un temps de parole. C'est une prière adressée à son Dieu et son roi. Et en s'adressant à lui, il sait que rien n'échappera à ce Dieu, à ce roi. Notez les différentes manières avec lesquelles David s'adresse à lui. « Prête l'oreille à mes paroles, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris. » Paroles, gémissements, cris. Gémissements, on peut aussi traduire murmures, soupirs. Ça va du gémissement au cri, des paroles clairement énoncées à des simples soupirs. Je me souviens avoir fait la connaissance d'un linguiste qui faisait une thèse sur le langage et il me disait que ce qui l'émerveillait le plus, c'est le fait que le langage peut exprimer tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent. Il y a une telle diversité de mots qu'on peut exprimer tellement. Mais dans le même temps, il y a des moments où on n'a pas la force de parler, où on ne sait pas exactement quoi dire. Mais David sait que même dans ces moments-là, ces simples soupirs seront entendus par Dieu, intelligibles, compréhensibles. Et ce n'est pas l'exclusivité de David. L'apôtre Paul, des siècles plus tard, écrira dans sa lettre aux Romains, « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. » Devriez avoir l'assurance pour David, comme c'était le cas pour Paul, comme c'est le cas pour nous, qu'on peut venir à Dieu et que même si on n'arrive pas à énoncer la souffrance qu'on ressent, l'indignation qu'on vit, qu'elle sera compréhensible, entendue par Dieu. David s'attend à Dieu, il s'attend à être entendu, alors que les psaumes 3 et 4 nous parlaient du soir, de la difficulté à dormir compte tenu des épreuves. Ici, on entend David dire « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. » Ici, c'est le matin, au début d'une journée. Il a, alors qu'il se réveille, le souvenir de toutes les cicatrices, de toutes les difficultés qu'il a déjà endurées. Et il y a la pensée de tout ce qu'il va falloir encore vivre, toutes les autres embûches qui restent. Et ce qu'il y a de profondément bienfaisant pour David, c'est qu'il peut s'attendre à Dieu pour cette nouvelle journée, compter sur lui. Il ne va pas devoir vivre sa journée seul à la sueur de son front, à la force de ses bras. Il va pouvoir compter sur lui. Et là encore, c'est l'expérience qu'on est appelé à vivre nous-mêmes en tant que croyants, s'attendre à Dieu au début d'une journée, compte tenu de paroles blessantes peut-être qu'on a dû entendre, d'un contexte difficile au travail, d'un contexte difficile en famille où on pourrait commencer avec un lourd fardeau cette journée. Ici, dès le matin, David et nous pouvons nous attendre à Dieu, nous attendre à Dieu dans la prière. Mais qui prendra la mesure? Qui en prendra la mesure? Il vient ensuite à détailler ce qui lui pèse. Alors que David s'adresse à son roi et son Dieu, certains se demandent peut-être, mais comment se fait-il que s'il est Dieu, s'il est roi, David passe par là? Si effectivement on a affaire à un Dieu souverain et bon, on a affaire à quelqu'un qui règne, comment se fait-il qu'il doive même passer par là? Est-ce qu'il est vraiment roi? Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Pour certains, les injustices, c'est l'occasion de démontrer que Dieu n'existe pas. que Dieu n'existe pas puisque ces injustices sont présentes. Ça paraît plus logique, plus naturel. Mais je vous suggère que ce passage met précisément en évidence une cohérence entre la dénonciation des injustices et l'existence de Dieu. On est d'accord, pourquoi le mal si Dieu existe? Ça reste une question difficile, sensible, délicate. Mais si on pense que face aux injustices, c'est plus simple, plus logique, plus naturel d'évacuer Dieu, on a d'autres interrogations. Admettons un instant que Dieu n'existe pas. Comment est-ce que les notions même de bien et de mal, de justice et d'injustice sont fondées? Ça peut sembler naturel, logique, allant de soi, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Prenez un athée comme Jean-Paul Sartre, qui affirme avec une logique implacable. L'existentialisme, au contraire, pense qu'il est très gênant que Dieu n'existe pas, car avec lui disparaît toute possibilité de trouver des valeurs dans un ciel intelligible. Il ne peut plus y avoir de bien a priori, puisqu'il n'y a pas de conscience infinie et parfaite pour le penser. Il n'est écrit nulle part que le bien existe, qu'il faut être honnête, qu'il ne faut pas mentir, puisque précisément nous sommes sur un plan où il y a seulement des hommes. Si Dieu n'existe pas, alors on se retrouve uniquement devant des choix individuels ou des choix de culture. Mais un mal et un bien qui seraient définis de manière universelle, qu'on pourrait dénoncer ailleurs, ce n'est pas possible si Dieu n'existe pas. Je pense que Sartre a raison. C'est parce que Dieu est Dieu que David peut s'indigner comme il le fait. Et en relisant ces paroles, écoutez comment le mal est chaque fois défini en référence à Dieu. « Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal n'a pas sa place auprès de toi. Les vantards ne peuvent résister devant ton regard. » Et Dieu n'est pas seulement la norme, il est aussi la mesure. Vous avez remarqué comme un crescendo dans la gravité du mal et parallèlement un crescendo dans la réaction de Dieu vis-à-vis du mal. S'il affirme au départ que Dieu ne prend pas plaisir à la méchanceté, il affirme à la fin que Dieu a horreur des assassins. Et pour David, c'est profondément bienfaisant de pouvoir s'adresser à un Dieu juste. Peut-être qu'en l'écoutant, on se sent mal à l'aise, et peut-être vous, tout à l'heure, en écoutant le psaume, vous vous êtes senti mal à l'aise avec des paroles qu'on a entendues de David. On préfère entendre parler d'un Dieu uniquement d'amour, un Dieu qui pardonne, plein de douceur. Et tout cela, c'est vrai. Tout cela, c'est vrai. Mais il va falloir tenir compte de ces textes aussi. Pour reprendre les thèmes de Cabrel, on pense peut-être à Dieu avec sa barbe blonde sur le rebord du monde et il pleure de le voir tel qu'il est. Un Dieu qui, de toute évidence, ne peut pas faire grand-chose sinon pleurer. Mais on est loin ici des clichés sentimentalistes. Dieu n'est pas vu comme passif, obsolète. Et il est même loin des clichés chrétiens. On entend parfois dans nos milieux que Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Il est le péché, il aime le pécheur. Mais ça vole en éclats quand on lit ici « L'Éternel a horreur des assassins et des trompeurs ». Ce n'est pas seulement le meurtre que Dieu a en horreur, mais aussi l'assassin. C'est pas seulement la tromperie que Dieu a en horreur, mais aussi le trompeur. Et David, qui s'attend à Dieu, pour lui, c'est profondément bienfaisant. Alors on peut faire toutes sortes de théories sur l'impossibilité que Dieu soit en colère contre le mal, que l'impossibilité qu'il juge, l'impossibilité de l'enfer. Mais c'est sur la base de notre propre pratique qu'on doit être jugé. On a pu voir une vidéo des parents de Maëlys, qui est disparu. Imaginez un instant que vous soyez dans sa peau. Quelle serait votre réaction si les responsables de la justice vous disaient « Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que vous devriez vraiment vous mettre dans cet état-là? Est-ce que vous ne devriez pas simplement accepter les choses telles qu'elles sont ?» Vous imaginez votre réaction dans ces moments-là? Il y aurait certainement de la frustration, terrible colère. Ce qui est profondément rassurant pour David, quand nous sommes, quand il est victime d'une injustice, c'est précisément que Dieu ne prend pas le mal à la légère. Une femme enceinte trompée par son mari, un homme injustement accusé d'abus vis-à-vis de ses enfants, une jeune fille abusée par un membre de sa famille. Dieu n'a aucune complaisance avec le mal, aucune complaisance et ceux qui le commettent. Et dans les versets 10 et 11, David sait que Dieu ne sera pas dupe. Il sait que même quand c'est enrobé de paroles flatteuses, enrobé de quelque chose d'enjolivé, d'apparence, de bienséance, Dieu ne sera pas dupe. Quelqu'un qui se fait passer pour un saint, pour une sainte, et qui derrière commet toutes sortes d'injustices, Dieu n'est pas dupe. David va jusqu'à s'attendre à ce que ses ennemis tombent dans leur propre piège. On passe ensuite à comment aller de l'avant dans les versets 8 et 9. Comment aller de l'avant? Alors qu'on vient de parcourir ces deux parties où il dénonce le mal, où il dit toute son indignation, on peut se demander si David est aveugle à ses propres torts. Si en fait il s'estime comme quelqu'un de parfaitement innocent, injuste, qui peut dénoncer le mal autour de lui, mais qui n'est absolument pas conscient du mal qu'il commet lui. Avec David, avec ce qu'on sait de lui, est-ce qu'on a affaire à un hypocrite fini avec ce qu'il a fait? En entrant dans cette nouvelle section, ce qui est au cœur de ce psaume, qui commence par « Mais moi », qu'est-ce qu'il va y avoir après ce « Mais moi » ? Est-ce qu'on va avoir la liste de toutes les choses qu'il fait de bien, comme par contraste avec toutes les injustices qu'il dénonce? Mais moi, je ne suis pas comme ça. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Une vie irréprochable. Ce n'est pas du tout ce qu'on trouve. Verset 8, mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison. S'il peut prétendre entrer dans la présence de Dieu, ce n'est pas sur la base d'une religiosité, de mérite, parce qu'il serait meilleur que les autres. C'est uniquement grâce à la bonté de Dieu. Une grâce imméritée, un cadeau, une faveur imméritée qui lui est accordée de Dieu, de la part de Dieu, son amour, sa bienveillance. Et le fait que cette présence de Dieu n'est pas un acquis se voit aussi dans la manière dont il vient. Je me prosterne dans ton Saint-Temple avec la crainte qui t'est due. Il n'entre pas dans la présence de Dieu dans son bon droit, comme s'il pouvait se tenir debout, un homme juste. Il se prosterne, il a de la crainte, une révérence devant Dieu. Et on note ici que la grâce et la crainte peuvent aller de pair. Il sait qu'il a affaire à un Dieu qui est à la fois redoutable, juste et bienveillant. Et qu'est-ce qu'il fait dans la présence de Dieu? Verset 9, « Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes adversaires. Aplanis ta voix devant moi. » Au centre du chiasme, au cœur de cette prière, c'est cette requête. Il demande à être dirigé dans la justice. Comme si ce n'était pas si facile que ça pour lui de marcher dans la justice, dans la droiture, compte tenu de tout ce qui se passe. Il est victime d'embûches, d'attaques, d'accord, mais lui-même, il a besoin de pouvoir marcher selon la droiture, selon la justice, et c'est ce qu'il demande. Une prière que l'on peut faire nôtre. En tant que croyant, on se souvient que cette présence de Dieu n'est pas un acquis. Ce n'est pas normal et naturel. Et précisément, tout ce qui était présent dans l'Ancien Testament, ce temple, les sacrifices, etc., montrait que ce n'était pas naturel, facile, normal de rentrer dans la présence de Dieu, compte tenu de ce que nous sommes. Tous coupables. Dans un langage ancré dans celui de la prêtrise de l'Ancien Testament, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament parle de Jésus qui a rendu possible cet accès. Écoutez-le. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. C'est bien par grâce que les chrétiens peuvent entrer dans la présence de Dieu, par la personne de Jésus, pas par leur mérite, pas parce qu'ils auraient vécu une vie juste. On semble empêtré dans une situation conflictuelle avec quelqu'un, on ne sait pas par quel bout commencer, eh bien, on peut faire cette prière nôtre. Éternel, conduis-moi dans ta justice. On est face au cancer, à des traitements à choisir, la mort, le plus redoutable ennemi. On peut prier, Éternel, aplanis ta voix devant moi. Quelles seront les réactions, la dernière partie, dans les versets 12 et 13? La fin de ce psaume, il met en évidence plusieurs contrastes entre le début et la fin. Le psaume commençait avec la confiance d'un homme, d'un individu en Dieu, mais se termine avec la joie partagée de beaucoup d'autres. Avec qui? Partagée avec qui cette joie? Au verset 12, « Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. » Si l'épreuve, elle isole, elle donne le sentiment qu'on est seul à vivre cela. Cette fin rappelle que David n'est pas le seul à placer sa confiance en Dieu. C'est plus un seul homme en prière, mais toute une compagnie de personnes qui aiment Dieu et qui ont confiance en Dieu. Et si c'est sa peine, son indignation face au mal qui dominait jusqu'ici, là, ce qui domine à la fin, c'est la joie. Ils seront pour toujours dans l'allégresse, tu les protégeras, tu seras un sujet de joie. Si c'était des ennemis qui l'entouraient au début, ici il est entouré de ceux qui se réjouissent avec lui, mais aussi de la grâce de Dieu qui l'entoure comme d'un bouclier. C'est intéressant ce mot « entoure », on le trouve une seule fois avec ce sens-là dans l'Ancien Testament, et c'est le moment où David se trouve entouré de Saül et de sa troupe. Il est sur le point de se saisir de lui. Et ici, ce terme qu'il reprend, il l'attribue à Dieu en disant que c'est la grâce de Dieu qui l'entoure de plus près. Cette faveur, cette protection de Dieu qui l'entoure de plus près. Le théologien allemand Helmut Thielicke parlait d'une situation, d'une anecdote, quand, dans son enfance, à l'école, il avait une dizaine d'années, et lui et ses amis étaient avec une certaine haine vis-à-vis d'un garçon dans la classe qui, en fait, était très apathique, il n'avait pas envie de travailler à l'école, mais au moment de répondre à des questions dans la classe, il abondait dans les bonnes réponses. Ça et d'autres éléments faisaient qu'il y avait une colère vis-à-vis de lui. Et Thielicke et ses amis se sont mis d'accord pour lui donner une bonne correction. Un matin, alors qu'ils devaient se rendre à l'école, ils se sont mis en embuscade. Et là, ils ont assisté à une scène, ses amis et lui, qui les ont dissuadés. Ce matin-là, le père de ce garçon s'est rendu avec lui à l'école. Et par l'affection que ce père, qui était respecté, un des plus respectés dans la ville, cette affection qu'il lui a manifestée, ils étaient comme désarçonnés devant quelqu'un qui avait tant d'amour pour son fils, par les gestes qu'il lui a manifestés, par la manière de dire au revoir, qu'ils étaient dissuadés de vouloir lui faire du mal. Le croyant peut se savoir entouré de la grâce de Dieu, comme d'un bouclier. Mais si on est encore dans cette situation d'injustice, d'indignation, on peut continuer de faire notre cette prière éternelle. Conduis-moi dans ta justice à cause de mes adversaires. Aplanis ta voix devant moi. Amen.